Devenir par Synapse, pour devenir la meilleure version de soi-même. Bonjour tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Devenir. Ici, nous explorons des sujets qui nous passionnent, le développement personnel et l'entrepreneuriat. Alors mets-toi à l'aise, augmente le volume et sois prêt à avoir l'esprit soufflé.
Bonjour et bienvenue à tous au Synapse Podcast, où on explore l'intersection de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Je m'appelle Alex Cabon et aujourd'hui, je reçois Mathieu Boynet, qui est quelqu'un qui a une histoire extraordinaire, qui m'a touché dès que j'en ai entendu parler et qui va venir nous aider au travers de son histoire à explorer un petit peu le thème de l'audace, le thème de comment lui, il s'est développé pour en arriver là où il est, d'où il vient. Et je te propose, Mathieu, de te présenter pour commencer.
Salut Alex, eh bien, écoute, merci pour ton invitation, ça m'a vraiment touché. Donc moi, pour faire très simple, donc je m'appelle Mathieu Boynet, j'ai 35 ans, je suis conférencier professionnel et ce qui surprend toujours, c'est que je suis à l'origine issu du monde du bâtiment. Alors c'est sûr que ça fait un... On dit tiens, comment il en est arrivé là, et je pense que c'est justement l'objet de ce podcast. Et aujourd'hui, donc, j'interviens dans les entreprises francophones pour parler d'audace, mais surtout vraiment pour éclairer, j'ai envie de dire, pour éclairer que ce soit les salariés, les DRH, les managers, les dirigeants, peu importe, pour leur montrer qu'il existe autre chose. Parce que aujourd'hui, bah, on a eu le Covid, il se passe plein de choses. Les entreprises, elles ont beaucoup souffert. Mais si on continue à fonctionner de la même façon, aujourd'hui, plus que jamais, l'audace, tu vois, c'est vraiment une qualité, voire une compétence pour certains qui est nécessaire, parce qu'il va falloir changer quelque chose si on veut que, bah, que les entreprises continuent à vivre et que les salariés surtout bah, soient bien à leur poste, soient bien dans leur entreprise, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui est important. Beaucoup de personnes vont dire oui, la qualité de vie au travail c'est une utopie, c'est pas nécessaire, blablabla. Mais aujourd'hui un salarié, un manager, peu importe, quelqu'un qui n'est pas bien au travail, c'est quelqu'un qui sera pas bien dans sa vie perso, ce sera quelqu'un qui sera pas productif sur son poste, ce sera quelqu'un qui aura des problèmes relationnels avec ses collègues au boulot. Enfin, ça a de toute façon, aujourd'hui, le bien-être au travail est une nécessité parce que ça ne joue pas qu'au travail, tu vois.
Super, super. Ça a du sens quand on voit quelqu'un qui vient du monde du bâtiment pour arriver à conférencier en entreprise pour les dirigeants, les DRH sur l'audace. C'est audacieux comme parcours déjà. On va voir
ça.
et donc, bien sûr, tu disais aussi que être bien au travail, même si ça paraît pas important pour certains ou trop difficile pour d'autres, c'est un pilier essentiel du bonheur et de la plénitude comme un tout. Et donc, c'est systémique. Donc, c'est vraiment quelque chose où on doit vraiment mettre l'accent là-dessus.
Tout à fait.
Alors, dis-nous un petit peu, toi, comment ça a été cette évolution? Où est-ce que tu as commencé à être audacieux?
Ça a été crescendo parce que en tant qu'ouvrier du bâtiment, honnêtement, j'ai souvenir d'avoir été bon ouvrier quand même puisque j'ai touché à beaucoup de choses. Donc, j'ai d'abord passé un CAP de menuisier et après, de fil en aiguille, j'ai passé un bac pro en charpente et de là, j'ai été amené à vite intégrer le monde du travail. Donc, évidemment, j'allais pas m'éloigner de mon domaine, mais surtout, comment j'en étais arrivé au bâtiment, c'est que déjà au Bahut, en fait, la problématique avait commencé là. Au Bahut, on avait dit, je me rappelle, ça m'a vraiment laissé un ancrage assez fort, on avait dit à ma mère devant moi, votre fils, il est bon à rien, on n'en fera rien, donc il faut qu'il aille en lycée professionnel. Sachant qu'aujourd'hui, les lycées professionnels souffrent encore d'une mauvaise image, puisque quand on ne sait pas quoi faire d'un jeune, on le colle en lycée professionnel comme si c'était une punition. Donc en fait, déjà moi, j'ai abordé les métiers manuels comme une punition, tu vois. Donc comme approche, c'était quand même pas terrible, terrible. Parce que en fait, on me l'a amené comme ça, donc évidemment... Quand tu sais, c'est le système éducatif, on fait confiance aux aînés. On dit bon, bah s'ils disent que je suis un bon à rien, bah c'est peut-être qu'ils ont raison, tu vois. Donc déjà tout de suite l'image de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, tout de suite elle démarre pas terrible, terrible quoi. Donc j'ai atterri dans ce milieu professionnel là, et il faut savoir que dans cet autre système éducatif, je me suis révélé puisque je suis devenu un très bon élève. Donc c'était déjà un espèce de conflit, une dualité interne en me disant mais attends merde. D'un côté, on me dit que je suis mauvais, et on me le démontre par A plus B. Et de l'autre côté, ben, j'ai montré certaines qualités où je suis bon. Donc déjà, il y avait un espèce de conflit qui s'installait. Et bon, après le bac pro, etc., etc., je me lance dans le monde du travail et je suis quelqu'un d'entier. Donc, quand je fais les choses, tu vois, je vais au bout. Donc, c'était la même chose dans mon travail. En tant qu'ouvrier, j'allais au bout. Donc, des fois, mon patron me disait, bon, le chantier parti, fini. Mais des fois, je quittais le chantier, c'était 11 heures le soir. C'était 11 heures le soir. Et puis, je ramenais le camion à l'entrepôt. Il me disait, bon, à tout à l'heure. C'était même pas, bon, prends ta matinée pour récupérer, un truc comme ça. Non, c'était à tout à l'heure. Tu reviens travailler à 6 heures. Mais tu vois, une fois, deux fois, trois fois, puis un jour, clairement, j'ai pété un plomb. Hein. C'est pas vieux, ça date de 2015. Et pourtant, en 2015, on n'osait pas encore le nommer, mais ça s'appelait juste un burn-out. Hein. Ça s'appelait un burn-out. Et je me rappelle, j'ai pété les plombs sur un chantier. J'ai téléphoné à ma sœur, je lui ai dit « tu poses pas de questions, tu viens me chercher ». Tu viens me chercher, je t'expliquerai. Donc, de fil en aiguille, j'ai demandé une rupture conventionnelle, etc., etc. Mais tu vois, une rupture conventionnelle pour faire quoi? Je veux dire, on m'a toujours dit que j'étais un bon à rien. La seule chose que je sais faire, c'est avec mes 10 doigts. Je fais de la menuiserie, je fais de la charpente, je fais de la soudure, je fais de la menuiserie aluminium, de la menuiserie PVC, tu vois. Donc, j'ai touché à plein de choses avec mes 10 doigts. Mais dans ma tête, c'est qu'est-ce que je suis capable de faire d'autre? Et évidemment, à l'intérieur, quand tu es en plein burn-out, c'est le vide absolu, c'est pour ne pas dire un bordel sans nom. Et en fait, comme je ne connaissais rien qu'à l'idée, si tu veux, de prendre soin de soi, je suis allé voir la seule chose que je connaissais que de nom, c'est-à-dire je suis allé voir un psy. Je suis allé voir un psy en me disant, bah, j'ai un problème, j'ai un problème, je suis malade, etc. Et en fait, au bout de deux séances, la psy m'a dit, mais vous n'avez pas de problème. Hein? Je dis, quoi? Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me dit, celle-là? Elle me dit, non, mais monsieur, vous n'êtes juste pas à votre place dans votre vie. Et je me souviens, tu sais, la sensation à l'intérieur, comme si on venait de m'enlever un poids. Mais un poids, je me rappelle, c'était, elle m'avait libéré d'un truc rien qu'en disant ça. J'ai dit, c'est pas possible. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à me renseigner sur tout ce qui pouvait exister au fait de prendre soin de soi, de trouver son orientation, de se faire aider pour faire autre chose, en fait, tu vois. Et c'est de cette façon que j'ai découvert la PNL. Et même là, à l'époque, je n'avais pas conscience de ma façon de faire, puisque j'habitais dans les Alpes. Il faut savoir que c'est quand même une région qui est très isolée. Et la première conférence de PNL qu'il y avait, elle était à Bouc-Bel-Air, dans les Bouches-du-Rhône. Donc, il y avait plusieurs heures de voiture quand même. Et c'était donc une conférence gratuite. Je m'inscris. Et je me tape l'aller-retour pour la conférence. Et donc, j'arrive, je me souviendrai toujours le visage de cette formatrice que j'ai retrouvée après quand j'ai intégré la formation. Cette dame qui arrive avec un sourire, mais une femme belle. Mais belle, tu voyais, belle dehors comme dedans. Elle respirait le bonheur et la joie de vivre. Mais moi, je voyais face à moi arriver une extraterrestre. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me veut? En plus, elle arrivait vers moi d'un pas décidé. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Puis elle vient, elle me tend la main, elle me dit, Lise, enchantée. Waouh! Elle respirait, tu vois, respirait la joie de vivre. Donc, je me présente un peu maladroitement. Je dis, bon, bah, Mathieu, je viens de Gap pour la conférence. Et elle a eu la. Elle s'est dit, peut-être celui-là, il s'est tapé 3 heures de route pour une conférence gratos. elle a dû se dire celui-là, j'en tiens un bon. Et donc, je fais la conférence de PNL qui visait à faire découvrir la PNL et je suis sorti de là. Le premier truc que je me suis dit, c'est mais en fait, je suis pas cinglé. En fait, je suis pas fou. J'ai de bonnes raisons de fonctionner comme je fonctionne. J'ai de très bonnes raisons de penser tout ce que je peux penser. Je ne suis pas fou. Et du coup, je me suis dit, avec cette révélation, tu vois, je me suis dit, eh ben, il faut que je découvre cette discipline-là. Je veux faire une formation, tu vois. Et je rentre chez moi. Alors, sur la route, je te dis pas, je me faisais déjà mes plans sur la comète, etc. Et j'arrive, je me colle devant l'ordinateur, je vais sur le site de l'établissement chez qui j'ai fait la conférence et je regarde tout de suite le prix du cursus complet. Tu vois, c'était plus de 10 000 balles. Et là, je dis, oh là là, tu sais, le ciel qui me tombe sur la tête, quoi. Je dis, c'est pas possible. Et on repart tout de suite dans les vieux schémas. J'y arriverai jamais, je ne suis pas capable, j'ai pas d'argent, comment je vais faire? Donc, tu sais, j'ai passé plusieurs jours à ruminer. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas rester là-dessus, ça peut pas se finir déjà, tu vois, c'est j'étais à l'intérieur, c'était non, c'est pas possible, il faut que je lutte contre ça, tu vois. Et d'un coup, gros éclair de génie, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il existe des organismes qui peuvent aider à financer une formation? Et j'ai fait mes recherches et nanana, et j'ai atterri sur le site du Fongicif, qui à l'époque finançait encore ce genre de formation, et j'ai réussi à me faire financer l'intégralité du cursus de PNL par le Fongicif. J'ai dit, allez, fonce, on y va, tu vois. Donc, j'ai fait ma formation complète avec tout ce que ça m'a apporté humainement et pour mon futur professionnel, et la PNL, ça a changé ma vie. Je veux dire, j'ai pas fait que les bases ou que le technicien. Là, j'ai fait un cursus complet en continu en plus. Et j'ai gardé contact avec cette école et ils m'avaient confié après, tu vois, que j'étais le premier à faire le cursus complet. Donc, en fait, ils me surveillaient de près parce qu'ils savaient que ça allait déménager, quoi. Qu'à l'intérieur, il y allait avoir énormément de choses qui allaient bouger. Ben, c'est même plus des choses qui ont bougé. C'est ma vie qui a été transformée avec ça. Et sorti de là, je me suis dit, je continue. Et donc, je me suis mis à mon compte en tant que praticien en PNL pour accompagner les gens. Donc déjà là, je n'avais pas conscience, tu sais, qu'il y avait tout un parcours audacieux, on va dire. Et j'ai commencé à recevoir dans un cabinet et ça a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, bon, Mathieu, c'est bien ce que tu fais. En plus, tu te débrouilles bien. On va pas se mentir, les gens, je les vois pas plus de 3 fois, tu vois. Donc, c'est pas en voyant les gens 3 fois, entre guillemets, que tu vas gagner de l'argent. faut dire ce qui est, parce que ça reste une entreprise. Les gens, c'est sûr, tu les aides, t'as que des bons résultats, mais avec 3 séances et t'as résolu leur problématique, tu vas pas aller très loin, tu vois. Donc, je me suis dit, tu gagnes pas ta vie. Tu reçois un par un, les gens, en fait, c'est tu prends du temps à atteindre les gens un par un. Qu'est-ce que tu peux faire, tu vois? Qu'est-ce que tu peux faire pour aller plus loin? Alors, ça m'a pris un certain temps de réflexion. Et puis, j'ai commencé à participer à des événements de développement personnel en France. Donc, j'ai découvert d'abord la journée de l'audace. J'ai découvert la Neuro Business School. J'ai découvert plein d'événements comme ça de développement personnel. Le grand sommet de la motivation. Et en 2017, il y a un vieux pote de formation qui m'appelle et qui me dit « Écoute Mathieu, il y a mon ami Yannick Alain qui organise la journée de l'audace. J'ai pensé à toi, ce serait bien que tu postes ta candidature. » Et c'est là où je me suis rendu compte, ça m'a pris quelques jours de réflexion parce que je me suis dit « Mais en fait, à recevoir les gens en cabinet, j'ai quitté une bulle pour une autre parce que même si j'aspirais à autre chose, ben, j'étais bien dans mon petit cabinet, c'était confort, c'était sécuritaire. » Tu vois, et puis j'avais entre guillemets le contrôle sur ce qui se passait, puisque quand tu es le praticien, c'est toi qui pilotes la séance, donc tu gères tout de A à Z. Et là, je me suis dit, ouh, la jolie sortie de zone de confort, tu vois. Et je me suis dit, allez, tant pis, j'y vais, je le fais. Donc, candidature vidéo. Et c'est marrant parce que je revois encore cette vidéo où j'ai sorti mon argumentaire avec les tripes, j'ai vraiment mis les tripes sur la table, hein, clairement. Et j'ai pas été sélectionné. Je m'en rappelle, cette vidéo sur Facebook, elle a fait, je crois que ouais, j'ai passé les 20 000 vues. J'ai passé les 20 000 vues, j'ai fait des centaines et des centaines de d'interactions, de commentaires, etc. Et ça n'a pas suffi. Parce qu'à ce moment-là, il faut savoir, si tu veux, que je me suis retrouvé en lice avec des gens qui aujourd'hui sont assez connus dans le développement personnel français. Et au début, j'ai vécu ça comme un échec, tu sais, quand tu es encore un petit peu novice dans tout ce qui est développement personnel, ben un échec reste quand même un échec. Mais sauf que là, cette fois, la réflexion, elle a été très vite et j'ai pioché, on va dire, dans la PNL, tu sais, et je me suis dit, bon, ben Mathieu, qu'est-ce que tu choisis de faire de cet échec? Est-ce que tu vas prendre un échec pour un échec et puis dans ce cas-là, c'est fini, tu rentres chez toi et puis tu pleures tout ce que tu as envie de pleurer si tu veux, ou alors tu choisis de tirer une leçon, de tirer un apprentissage de cet échec, puis tu n'as pas été sélectionné quelque part, ce n'est pas de ton fait. Et comment tu peux rebondir avec ça? Et en fait, ce qui m'a donné l'impulsion, c'est le jour du résultat, c'est Yannick Alain, justement, qui a salué ma candidature parce qu'en fait, personne ne me connaissait. Personne ne me connaissait du tout. Moi, j'avais une vision de moi comme le petit coach qui faisait des petits accompagnements, qui apportait une petite contribution, tu vois. Et en fait, il a salué ma candidature parce que j'ai fait un chiffre assez hallucinant pour quelqu'un que personne ne connaissait. Je veux dire, aujourd'hui, même sur ma chaîne YouTube, 20 000 vues sur une vidéo, je ne les ai pas encore, tu vois. Donc, c'est vraiment que cette candidature où j'avais posé mes tripes sur la table, c'est vraiment qu'elle avait impacté les gens. Et là, je me suis dit, bah, tu sais quoi? Et tu sais, quand tu as une conviction, quand tu as une idée qui t'arrive là dans la tête et que tu n'arrives plus à t'enlever, et ben, je me suis dit, bah, tu sais quoi, Mathieu? En 2018, cette journée de l'audace, eh ben, elle ne se fera pas sans toi. Et puis ça, c'est resté marqué au fer rouge. Eh ben, cette croyance était tellement puissante. Tu sais, quand tu as un objectif qui est tellement puissant que finalement, tu réfléchis même plus. Les choses, elles se mettent en action d'elles-mêmes, tu vois? Et c'est ce qui s'est passé, puisque de là, j'ai commencé à faire mes premières, on va dire, petites conférences, puisque j'ai fait des conférences dans des cabinets de thérapeutes au début, donc devant 5 personnes, 10 personnes, 20, 30, 40, 50, ça a fait que monter crescendo. Après, il y a des associations qui commencent à me faire venir, j'ai commencé à faire 100 personnes, 200 personnes. Et du coup, je filmais. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je me serve de tout ça pour ma candidature. Et je me baladais dans Paris avec un panneau « Votez Mathieu, j'en ai de l'audace 2018 ». J'ai fait des micro-trottoirs dans Paris aussi en disant aux gens « Dites à la caméra là qu'il faut voter pour Mathieu pour la journée de l'audace en 2018 », tout ça. Donc, je me suis envoyé. En fait, je me suis dit, cette journée, je la ferai, tu vois. Et en fait, le jour de l'annonce du résultat, il sélectionnait plusieurs participants et j'étais pas dedans. Oh, alors tu sais le vide. Le vide, je dis comment c'est possible? Et à la fin de l'annonce des résultats, il dit bon, bah, on a un autre candidat de dernière minute parce que qui est complètement dans une catégorie à part et c'est tombé sur moi. Et je reste un humain, hein. Je me suis un peu vexé. Je me suis dit, mais attends, ils me font quoi? Ils me font la charité? Qu'est-ce qu'ils me font la charité ou quoi? Je dis, moi, si c'est ça, j'y vais pas. D'un peu fier, tu vois. Et en fait, j'appelle Yannick Alain et je lui dis, bah, écoute, si, c'est gentil, hein, mais si tu me fais l'aumône, je viendrai pas. Il me dit, Mathieu, fais pas ça. Viens, tu vas le regretter sinon. Donc, je fais ma journée de l'audace, ça se passe très bien. En fait, ça a été mon tremplin parce que de là, j'ai été repéré par mon mentor Michel Poulard qui en fait, en 2019, il m'avait repéré déjà là. Il m'avait repéré aussi sur les réseaux avec le type de vidéos que je faisais. Et il m'a dit, écoute, Mathieu, je vois ton potentiel, je vois de quoi tu es capable. Je voudrais que tu intègres mon école de conférencier, je voudrais te former. Et il faut savoir qu'il y a quand même Michel Poulard, alors c'est un conférencier professionnel français, mais qui est labellisé CSP. CSP, c'est l'Oscar. C'est l'Oscar du conférencier, le CSP. Et c'est une reconnaissance qui est internationale. Donc aujourd'hui, Michel, il fait des conférences partout dans le monde. Donc c'est un conférencier très connu. Et je me suis dit, waouh! Qu'est-ce qu'un bonhomme comme ça a pu voir chez moi que moi, je ne vois pas, tu vois? Et puis, à force de côtoyer tous ces gens-là, parce qu'aujourd'hui, Michel, c'est devenu mon ami, Yannick Alain est devenu un ami aussi, et Yannick me dit, il y a quelques semaines, d'ailleurs, je l'ai découvert quand il a fait la préface de mon nouveau livre, il m'expliquait, il m'a dit, mais Mathieu, en fait, en 2018, il m'a dit, tu es le seul à avoir été audacieux pour la journée de l'audace. Les autres, ils ont parlé d'audace. Et je dis, et c'est pas lui le décisionnaire, il y avait un comité, il y avait un jury, tu vois. Je dis, mais putain, tu te rends compte de ce que tu me dis? Parce que je suis le seul à avoir été audacieux et on a failli pas me prendre pour la journée de l'audace. Je dis, c'est un paradoxe absolu. Et il me dit, oui, je sais, parce que les autres ont fait que blablater sur l'audace, en fait. Et en fait, ce qui a fini d'enfoncer le clou et qui leur a dit « bon, bah là, on ne peut plus lutter », c'est que moi, pour valider encore ce que j'avais fait, j'ai organisé une flash mob. Et une flash mob à organiser, c'est un bordel monstrueux. Demander des autorisations à la mairie, trouver un lieu, trouver un matériel sono sans fil, assez fort pour que ça mette l'ambiance, trouver des copains qui sont volontaires pour préparer la chorégraphie, trouver les déguisements, etc., etc. Donc, j'organise une flash mob, je la fais et je la communique sur Internet. Ils ont dit là, c'est fini. Là, on ne peut plus lutter. On le prend.
Une belle histoire, Mathieu. Ouais, merci pour toute cette trajectoire. Il y a deux choses qui me touchent vraiment dans tout ce que tu racontes. Donc, quelque chose que chez Synapse, on croit très fortement, c'est le pouvoir des croyances, les croyances de qui je suis, ce que je suis capable, ce que je mérite. Et depuis l'école où on t'a mis en professionnel parce que tu n'avais pas le potentiel, il y a des croyances même d'identité derrière. Quand tu vas voir cette psy et après le burn-out et qu'elle te dit « bah non, tu es juste à la mauvaise place » et que toi, tu avais cette croyance de capacité, que tu n'étais pas capable de faire autre chose qui ne soit pas dans ce niveau d'activité que tu faisais à l'époque. Ou même quand tu as les 10 000 euros devant toi et que tu as envie de le faire, que tu dis « mais j'y arriverai jamais à les trouver, comment je vais pouvoir faire ?» Il y a plusieurs… On voit vraiment qu'au travers de l'action, tu transformes tes croyances et que ça peut se changer très rapidement. C'est-à-dire que même des croyances de long terme, avec un fort impact émotionnel, comme c'est le cas quand tu vas voir la psy, comme c'est le cas quand tu rencontres Lise et qu'elle te sourit, qu'elle te reçoit. Et donc, il y a vraiment ces… ou même la journée de l'audace, où tu arrives et d'un coup, la croyance commence à rentrer. Tu as une vision sensorielle qui te dit « je suis là-bas » et que si tu n'étais pas pris, même, ça te paraîtrait outrageux parce que tu étais déjà là-bas dans ta tête. Et tu as même été très audacieux pour y arriver. Donc, c'est vraiment, en gros… c'est vraiment possible de transformer ses croyances au travers de l'action, au travers de la pensée, au travers des émotions. C'est ça qu'on en retire, alors.
J'en suis convaincu. Et puis, l'audace, c'est un qualificatif qui fait encore très peur aujourd'hui. Mais en fait, moi, je dis souvent, finalement, un audacieux ou une audacieuse, c'est très simple parce qu'il ne sait pas, il ou elle ne sait pas qui l'est. En fait, si t'as la conviction, tu mets les actions, tu vois. Et ça peut paraître audacieux. Après, il y a différentes catégories d'audacieux, comme le disait très bien Yannick. T'as l'audacieux qu'on va considérer comme quelqu'un de dérangeant, c'est-à-dire quelqu'un qui va quand même enquiquiner le monde pour arriver à ses fins. Et moi, il me disait, mais ce qui est fascinant avec toi, c'est que même si tu te plantes, eh ben, tu vas réfléchir à une façon de réussir. Tu vas tout de suite, il m'a dit, t'as ce mécanisme où t'as pas été pris en 2017, comment je vais être après en 2018, tu vois, en fait, comment je peux faire mieux? J'ai mis ce. Moi, c'est la PNL qui m'a aidé à ça. Ok, là, ça ne marche pas comme ça. Ok, comment je peux faire en sorte que ça fonctionne? Donc, en fait, il y a une question qui a complètement été effacée de mon esprit, finalement. C'est pourquoi? Parce que le pourquoi, excuse-moi, on n'en a rien à cirer du pourquoi. Le pourquoi, ça sert à ruminer, ça sert à dire pourquoi, et pourquoi ils ont dit ci, pourquoi il n'y a pas ça, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi on n'avance pas avec le pourquoi, tu vois. On stagne dans quelque chose qui est dégoûtant. Est-ce que comment? Ok, ça ne marche pas. Maintenant, comment je peux faire pour que ça fonctionne? Eh ben, c'est plus du tout la même dynamique, tu vois, c'est un nouvel état d'esprit qui s'installe, en fait.
Oh, c'est une belle question puissante de sagesse. Ouais. Moi, je voudrais qu'on approfondisse un peu sur quand tu as commencé, donc tu t'es certifié PNL, tu as commencé à coacher des gens en individuel et que tu disais que tu avais un impact, donc tu avais une croyance d'identité, je suis bon, une croyance de capacité, je suis capable en trois sessions de
transformer. Je le voyais clairement, tu sais, parce qu'une personne, quand tu viens de démonter son problème, il y a un éclair dans les yeux, tu vois qu'il s'est passé un truc. Et ça, c'est un cadeau comme on en trouve rarement, de dire, ben voilà, j'ai réussi à créer cet impact pour une personne parce qu'elle va elle-même, en plus, changer sa vie. Moi, j'ai fait que donner la clé, donner l'outil pour que cette personne crée après le changement dans sa propre vie. Donc oui, c'est énorme.
Mais en même temps, tu ne gagnais pas tellement d'argent, ton business n'était pas trop prospère. Est-ce que c'était une croyance de mérite qui manquait, que tu arrivais à donner, mais pas à prendre pour toi-même? Tu n'avais pas encore la compétence de…
Alors, je manquais encore cruellement de compétences parce que maintenant, avec l'expérience, j'ai appris beaucoup de notions de commerce et de marketing. Donc, même si je faisais payer mes séances et que je n'avais pas spécialement de problème avec ça, quand tu fais payer tes séances, et que les gens ne reviennent plus parce que tout va bien, tu te dis, bon, tu te projettes, tu dis, ça va me demander quand même beaucoup de travail pour en faire venir d'autres, et encore, et encore, et encore, tu vois. Après, évidemment, par exemple, moi, j'ai beaucoup aidé ma compagne quand elle s'est lancée, elle est kinésiologue, et du coup, je lui ai donné les astuces pour éviter de perdre le temps que moi, j'ai perdu. C'est-à-dire qu'au début, elle facturait à la séance. Je lui dis, oh là 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 là, arrête, stop, arrête. Tu peux continuer, par exemple, de facturer à la séance, mais propose des suivis. Parce que déjà, tu vas fidéliser ta clientèle et puis ils vont voir qu'il y a un réel sérieux de ta part, un réel professionnalisme, parce que tu fais un suivi sur 3 mois et à chaque fois, bah, tu prends l'évolution, tu mets en lumière l'évolution de ton client et tu abordes une nouvelle problématique, bah, la personne, elle est contente parce qu'en plus, non seulement tu es professionnel, tu lui portes un réel intérêt et dans tous les cas, tu l'accompagnes à dépasser ses obstacles. Donc évidemment, quand elle a changé de format, de prestations, elle a changé aussi de formule de paiement et ça l'a aidé pareil de son côté à développer son business quoi. Donc tu vois, toutes les erreurs que j'ai pu faire m'ont apprise et je peux transmettre aussi ça à mon tour, tu vois.
Et c'est quoi la routine que vous avez en tant que couple? C'est quoi les habitudes, vu que tu as été le premier à faire cette formation PNL complète? J'imagine qu'on parle beaucoup de ça aujourd'hui.
En fait, ce qui est génial déjà, c'est je veux dire, ça ne pouvait être qu'elle, parce qu'on parle. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut parler? C'est fou, hein. Mais de tout, on parle de tout, que ce soit personnel ou professionnel, même quand des fois il y a une tension, eh bien, on en parle. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour toi à ce moment-là? Tiens, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Et tiens, comment on peut se mettre d'accord? Tu vois? Et quand elle a une séance qui ne se passe pas très bien, eh bien, on en débrief. Elle prend ce qu'elle a à prendre et paf, elle rebond. Elle aussi, maintenant, elle a intégré ce mécanisme de tiens, comment je peux faire pour m'améliorer et puis refaire les erreurs que j'ai pu faire. Donc, en fait, c'est fabuleux parce qu'on a une communication qui est extraordinaire.
Waouh! C'est quelque chose qui manque beaucoup dans les couples, parfois.
Oui!
Ou même dans les entreprises aussi, de s'arrêter pour réfléchir à qui on est, ce qu'on fait. C'est ce que tu fais toi avec tes conférences. Tu vas dans les
entreprises. Oui, oui. Et souvent, les gens, tu sais, tu sais, l'expression « avoir la tête dans le guidon », ils se disent « non, non, mais je ne m'arrête pas, je vais perdre du temps, et puis le temps, c'est de l'argent, etc. » Mais le temps qu'on peut perdre à aller voir un coach, à aller voir une kinésiologue, à écouter un conférencier, le temps qu'on peut perdre à ça, mais c'est du temps qu'on gagne ensuite. Parce que du coup, il y a des déclics qui s'opèrent, des changements, et du coup, des erreurs qu'on ne répercute plus, tu vois. Donc, évidemment, perdre du temps à l'instant T, eh ben oui, c'est en gagner pour après.
C'est un investissement qui vaut la peine, ça, on est convaincu. Et en entreprise aujourd'hui, donc tu vas dans beaucoup de grands groupes, tu tournes dans toute la France, qu'est-ce que tu vois qui se passe dans l'entreprise?
On va pas se mentir, j'ai quand même eu un an d'inactivité à cause du Covid, ça a été compliqué. Mais là, c'est rigolo parce que donc j'ai repris. Tu vois, je suis revenu hier soir. Jeudi soir, j'avais une conférence pour le DCF de Grenoble. C'est donc les dirigeants des commerciaux de France. Et j'ai pris plaisir à beaucoup échanger avec les participants à la fin parce que justement, je voulais savoir comment ils avaient vécu cette année de Covid, comment ils le vivaient maintenant, quels sont les obstacles qu'ils ont pu rencontrer, etc. Et je m'aperçois que finalement, les problèmes n'ont pas changé. C'est-à-dire que seulement aujourd'hui, le Covid leur a mis un impératif. Bon, ben maintenant, on est dans la merde. On est clairement dans la merde. Comment on peut faire pour s'en sortir? Donc maintenant, bien sûr, qu'ils sont tout à fait plus enclins à écouter une voix extérieure pour se dire, bon, ben, peut-être que les suggestions extérieures sont bonnes à prendre et j'ai peut-être quelque chose à y gagner, tu vois. Parce que moi, rien que chez moi, je le vois. Moi, j'ai un ami qui est électricien. Il est à son compte, il a des salariés. Et on a beaucoup échangé ensemble. On s'est, entre guillemets, coaché finalement mutuellement pour se donner des astuces. Lui, il a, par exemple, tiré son épingle du jeu ici. Il n'a pas arrêté de travailler pendant le Covid. Il s'est bien démerdé. Ses salariés ont continué à bosser. Nickel. Mais la majorité de ses concurrents sur Toulon, la majorité de ses concurrents ont fermé l'entreprise, mais définitivement, tu vois. Donc, en plus, il a récupéré une grande partie du marché. Il pense à déménager, donc à prendre un local plus grand. Il pense à embaucher. Il pense à, tu vois. Et tout ça parce qu'en fait, en travaillant ensemble, il a mis en place des nouvelles choses qui ont débloqué de nouvelles perspectives. Et du coup, en fait, finalement, le Covid, lui a permis de faire grandir son entreprise, tu vois. Mais parce qu'il a été, en premier lieu, disposé à entendre que sa façon de fonctionner jusqu'à maintenant, elle avait fait son temps, mais qu'aujourd'hui, elle n'était plus adaptée, tu vois.
c'est les crises et les victoires. Quoi. C'est dans les crises que les entrepreneurs grandissent. Et c'est vraiment la plupart des gens, pour augmenter notre niveau de conscience, pour perdre ce temps, comme tu disais, pour se développer, il faut qu'il y ait une douleur, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous pousse à l'action, c'est ça ?
C'est ça. Souvent, malheureusement, c'est très humain, mais on attend de toucher le fond ou on attend d'avoir mal pour réagir. Et j'y ai pas échappé parce que avant le, tu vois, j'ai fait le burn-out, mais il y a encore autre chose qui est venue parce que j'avais le doute après le burn-out. Tu sais, on est encore dans nos croyances, on se dit, oui, bon, là, j'ai pas été bien, mais bon, finalement, c'est confortable, je sais faire que ça, je vais peut-être y retourner. Et en fait, l'année d'après, j'ai eu, tu vois, on devine une petite cicatrice ici, mais l'année d'après, j'ai eu un accident du travail où ma balafre, elle me prenait la moitié du visage. J'ai une poutre en acier qui m'est tombée dessus. Si j'avais pas levé la tête en entendant le bruit, si j'avais pas levé la tête, je serais plus là pour en parler. Donc là, j'ai pris que le bord qui m'avait arraché un bout du front, tu vois. Et comme si c'était passé, parce que je suis quelqu'un d'un petit peu entêté, l'année d'après, j'ai eu un problème de santé, j'ai fait une tumeur. Et là, en fait, c'était sur le lit d'hôpital où j'ai dit, bah, tu vois, Mathieu, je me suis dit, tu vois, comme pour la journée de l'audace, je me suis dit, bah, tu vois, Mathieu, là, ce que tu es en train de vivre là, plus jamais. Tu vois, ça c'était pareil, c'était une conviction totalement arrêtée. Et tu vois là, toutes les conneries que t'as fait un burn-out, t'as pas bien compris le message, t'as failli mourir et en plus t'as fait une tumeur, je dis là c'est fini, on s'arrête là, tu fais autre chose.
T'as pris la responsabilité de dire ce que t'as construit pour toi, ta vie dans tous les domaines, elle a conduit à ça, et donc t'as pris la responsabilité, ouais, de dire c'est moi qui suis responsable de ça.
Et tu vois, c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur finalement de… Parce que oui, à cette époque-là, en plus, j'étais mal, je souffrais beaucoup. Et j'ai pris à cœur de le partager dans mon premier livre parce que je me suis dit, si je peux éviter aux gens de souffrir comme j'ai souffert, donc si je peux partager ça, donc si je peux partager cette nouvelle vision avec les nouvelles croyances que ça a générées, mais feu, parce que les pauvres, je m'imaginais déjà à leur place, je dis, oh là là, si je peux éviter à certains toute cette peine-là, voilà, c'est cadeau, ça me fait plaisir, tu vois. Et puis après, pareil, écrire, pareil, je suis passé par un petit syndrome de l'imposteur parce que je me suis dit, oulala, tout de suite, mais qui je suis pour écrire un livre ? J'ai dit, oh là, Mathieu, arrête tes conneries. Mathieu, tu es d'origine, tu es charpentier quand même, tu n'es pas un littéraire. Tu sais, tout de suite, les vieilles croyances qui peuvent revenir dans ces cas-là. Et puis à la fin, je me suis dit, oh merde, non, j'ai envie de partager quelque chose, je vais le faire. Et toujours pareil, parce que je te dis, je pense que la force de mes convictions m'ont toujours beaucoup aidé. Et bien, je me suis dit, pour être sûr qu'il existe ce livre, je vais l'auto-éditer. Donc, je l'ai auto-édité, j'ai créé sur Amazon, d'ailleurs, ils ont une plateforme qui est géniale, qui est très facile et intuitive et tout. Donc, j'ai créé mon livre sur Amazon et je dis, oh, et puis ce serait bête que je m'arrête là. J'envoie mon manuscrit aux maisons d'édition. Mais j'ai eu une dizaine de réponses favorables. Donc j'ai dit, bon, bah, ce livre, il va exister dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Donc aujourd'hui, il est édité en maison d'édition. Et le deuxième, avec le Covid, ils ont pris beaucoup de retard. Mais le deuxième, j'ai hâte de le voir exister aussi, le deuxième. Le deuxième, il est entièrement dédié à l'audace, tu vois. Donc ce serait un comble qu'il ne voit pas le jour, quoi.
Et ton histoire, en fait, tout ce que tu nous racontes, Mathieu, ça montre vraiment que tout est possible. Ça montre vraiment qu'on peut changer complètement son environnement, ses croyances. Est-ce que tu peux nous parler un peu de peut-être certains rituels du matin ou des routines avec cette formation PNL? Probablement, tu as mis en place certaines choses en plus de la communication avec ta femme et de parler.
Alors, il y a beaucoup… en fait, ça passe beaucoup par l'écoute de soi. Tu vois? Parce que… alors, c'est difficile hein, au début de s'écouter parce que est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est vraiment moi? Tu vois? C'est difficile au début. Et en fait, il y a une astuce qui m'est venue avec le temps. C'est la première idée. Le premier truc qui vient, limite sans réfléchir, c'est moi. La deuxième idée, c'est le mental qui essaie de sécuriser un peu l'affaire, tu vois.
Donc, ouais, parce que l'émotionnel, il vient plus rapidement que le rationnel.
Exactement, c'est ça. Donc du coup, bien souvent, pareil, même dès que je me lève le matin, limite, c'est comme un scanner. Bon, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, est-ce que c'est OK pour aujourd'hui, etc., etc. Et en fait, je m'écoute et je fais ça le plus possible, voire tout le temps, tu vois, parce que bah, s'écouter, c'est Déjà prendre soin de soi. C'est après quand on élargit le spectre, s'écouter, c'est aussi s'affirmer, affirmation de soi. Donc s'écouter, donc c'est confiance en soi, parce qu'évidemment quand on s'écoute, et on sait qu'à l'intérieur ça ment pas, c'est la vérité. Donc on a confiance en ce qu'on ressent. Donc, confiance en soi. Et finalement, ça peut aussi nous rassurer. Donc, il y a de l'estime de soi là-dedans. Donc, s'écouter, on peut y mettre plein de bonnes choses dedans qui ont un impact sur l'environnement, tu vois. Donc, aujourd'hui, moi, quand j'entends « Oh là là, Mathieu, tu es une personne authentique, c'est génial », eh ben quel beau compliment, parce que authentique, ça devrait être le cas de tout le monde, ça devrait être un automatisme. Et je dis pas que les gens ne sont pas authentiques, mais de par le conditionnement de l'éducation, de la société, peu importe, on a cet automatisme que de mettre en place des masques sociaux. Eh bien, tiens, au travail, j'ai ce masque-là. À la maison, j'ai ce masque-là. Dans ma famille, j'ai ce masque-là. Oui, mais en fait, il y a quoi en dessous des masques? Tu caches quoi sous tous ces masques, tu vois? Et ben, en fait, moi, je suis, que ce soit dans mon boulot, que ce soit à la maison ou en famille, je suis la personne que tu as devant toi aujourd'hui.
Intégrer dans tous les piliers de la vie, la même personne authentique. Donc, c'est génial ce que tu dis, vraiment, l'écoute de soi est la première idée plutôt que la deuxième où on sécurise. Et avec ça, on s'affirme et on construit l'estime de soi. Les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment envie de changement. Ils ne sont peut-être pas arrivés non plus au burn-out ou à la douleur qui vraiment les pousse à l'action massive.
Mais le changement peut s'opérer avant.
Voilà. C'est justement ça que je voulais te demander. C'est qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens qui ils ont cette envie de changer, mais ils n'ont pas encore agi autant que toi, tu as agi, par exemple. Donc, ils n'ont pas encore fait la première formation qui leur a ouvert des portes, à trouver des mentors, à se repérer. Donc, ils n'ont pas la visualisation parce que toi, tu as avancé. À chaque fois que tu as avancé, tu avais le chemin qui s'explorait. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à tous ces gens qui ont envie d'un changement, mais qui ne savent pas trop par quoi commencer?
Il y a une métaphore qui est très simple, en fait, et ça va rejoindre ce que j'ai dit juste avant, finalement, sur le fait de s'écouter. Alors, le tout premier truc à faire, c'est de s'entraîner justement à s'écouter. Ça peut paraître hallucinant de s'entraîner à ça, mais justement tout de suite, c'est se poser la question, bon, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe chez moi? Première idée, paf. Faire attention à la première idée, faire attention à la deuxième, parce que, à se souvenir, la première idée, c'est juste. La deuxième idée, c'est le mental qui relaye. Une fois que ça s'est mis en place, tu sais, la métaphore de l'enfant qui apprend à marcher. C'est-à-dire que même nous, aujourd'hui, on est comparable à des enfants qui apprennent à marcher. C'est-à-dire que tous les jours est une nouvelle aventure, on va découvrir un nouveau monde, ok? Mais du coup, le but, c'est de faire un pas, deux pas, et on en fait un troisième pour garder l'équilibre, parce que si on s'arrête, on tombe. Et puis, moi, j'ai du mal à imaginer un enfant qui fait un pas, deux pas, se casse la gueule, et puis il te regarde en disant « Non, c'est bon, je m'arrête là, je ne me relèverai pas », tu vois? Évidemment qu'on tombe, bien sûr, mais le tout, c'est déjà de se relever. Mais si on veut éviter de tomber, eh ben, on fait encore un pas. Et puis, pour garder l'équilibre, on fait encore un pas. Et puis, encore un pas. Et j'ai un pote qui en parle dans sa conférence. Il dit la phrase suivante, il dit « Ce sont les petits pas qui, répétés chaque jour, engendrent les grands changements. » Cette phrase est magnifique. C'est en fait en mettant des petites actions en place, tous les jours, il n'y a pas besoin, parce que tu sais, le cerveau, c'est une belle machine, hein. C'est très bien fait, mais c'est surtout conçu pour nous garder en sécurité. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on pense changement? C'est tout de suite, hop, la peur. Et la peur, qu'est-ce qu'on a? On a ou la fuite, ou l'immobilisme, ou le combat, tu vois? Mais souvent, c'est l'immobilisme. Donc, du coup, j'ai peur, je ne fais rien. Donc, ça veut dire, j'ai peur, je ne change rien. Non, maintenant, ton objectif, il est là-bas. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Donc, ça va être quelle est la première étape? Et puis, quelle est la deuxième? Et quelle est la troisième? Tu vois les petits pas? On y vient. Et puis, quelle est la quatrième? Et la cinquième? Et la sixième? Et là, bizarrement, dans l'inconscient, eh ben, ça paraît beaucoup moins inaccessible et beaucoup plus abordable, justement. Tu vois? Donc, c'est de réduire l'objectif à un premier pas. Parce que le premier pas va appeler le deuxième, qui appellera le troisième, qui appellera le quatrième.
Beaucoup plus facilement dans ta question du comment, une fois qu'on prend le gros rêve et qu'on le met dans quelque chose de simple pour tous les jours et on avance, effectivement, cette répétition l'écoute de soi, s'entraîner à l'écoute de soi, c'est un conseil merveilleux que tu donnes pour finaliser maintenant, où les gens peuvent vraiment apprendre à faire ça. Et si on attend trop longtemps, bah, on passe 10 ans dans la mauvaise direction, alors que si on fait ça tous les jours, même un petit peu, on a un feedback loop beaucoup plus rapide pour s'aligner, devenir authentique et vivre ses rêves. Et ça marche avec la santé physique, hein. Ça ne sert à rien d'aller faire 10 heures d'exercice à la gym, il faut en faire un petit peu régulièrement, et c'est là qu'on construit vraiment une identité qu'on a envie d'avoir. Quel serait ton message final, Mathieu, pour tout le monde? Imagine que l'humanité va sur Mars, c'est les dernières minutes avant de couper la connexion. Qu'est-ce que tu dirais aux êtres humains pour chercher leur plénitude?
Écoutez-vous, parce que là, finalement, on a parlé d'audace. L'audace, c'est un grand mot. Écoutez-vous, vous êtes tous déjà audacieux, audacieuses. Vous êtes tous, en fait, capables de réaliser vos rêves. Alors évidemment, si quelqu'un à 50 ans va me dire « je veux être astronaute », on va parler de quelque chose quand même de réaliste. Mais voilà, vous êtes tous capables en fait de changer le monde, vous êtes tous capables de faire des grandes choses. Mais toutes ces choses qui sommeillent en vous, auxquelles vous aspirez, elles commencent toutes par la même chose. Elles commencent toutes par un premier pas, parce que la mise en action, le mouvement, c'est la vie. Si vous n'êtes pas en mouvement… L'absence de mouvement, c'est la mort. Donc, voilà, si vous avez une envie de changement, si vous avez une envie de réaliser vos rêves, ça commence très simplement par faire un pas. Faites-le.
Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.